Pour ce segment de l'émission, on s'intéresse à une formation qui avait lieu à Capomeule hier et ce matin au sujet de l'approche aidance auprès des personnes LGBTQ+, c'est-à-dire auprès des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres. Avec le vieillissement de la population, un peu tout le monde peut se retrouver en situation de proche aidant, soit en étant un proche aidant ou une personne proche aidée. Et évidemment, lorsqu'on est une personne issue des minorités sexuelles, ça peut compliquer les choses. Pour mieux comprendre comment cette formation vise justement à aider, je me suis entretenu avec M. Julien Rougerie de la Fondation Émergence qui m'explique de quoi il retourne. Je lui ai d'abord demandé de m'expliquer qu'est-ce que la Fondation Émergence. Voici sa réponse.
La Fondation Émergence, c'est une association à but non lucratif qui lutte contre l'homophobie et la transphobie à travers différents programmes de sensibilisation, dont le programme Famille Choisie qui nous rassemble aujourd'hui.
Voilà, justement, vous êtes sur l'archipel pour donner une formation aujourd'hui, lundi et demain, mardi, au sujet qui s'intitule Famille Choisie. Qu'est-ce que c'est que cette formation, ce programme que vous venez présenter aux îles?
Alors, le programme Famille Choisie, c'est un programme qui vise à parler de la question de la diversité sexuelle et de genre dans les contextes de proche aidance. Il y a beaucoup d'isolement, d'enjeux spécifiques, notamment chez les personnes LGBTQ+, vieillissantes, mais on peut être proche aidant à tout âge, là, bien sûr. Parfois, c'est des personnes qui ont du mal à naviguer dans le milieu de la santé, des services sociaux, même les milieux communautaires en soutien psychosocial ou en soutien aux personnes proches aidantes, etc. Donc, on va aborder ces enjeux spécifiques là. Donc à l'intersection de la proche aidance et tous ces enjeux et de la diversité sexuelle et de tous ces enjeux.
Rappelez-nous évidemment le sens de l'acronyme.
Oui. Alors l'acronyme LGBT, LGBTQ+, etc. On l'utilise pour définir les personnes en situation de minorité par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Donc les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et toute autre forme de minorité par rapport à son orientation ou son identité de genre.
Voilà, parce que ce qui est particulier, par exemple, dans un contexte de proche aidance, j'imagine, c'est qu'on peut être « out », comme on le dit, donc ouvertement gay, lesbienne, bisexuelle, trans, etc., dans notre vie, auprès de nos proches, auprès de nos collègues, auprès de notre famille. Mais lorsqu'on arrive dans une situation où on a besoin d'aide dans le système de santé, lorsqu'on déménage dans une résidence de personnes âgées, lorsqu'autrement dit, vient un certain moment où on tombe dans une certaine situation de vulnérabilité et de changement, de nouveau, on peut avoir peur de parler de notre identité?
Oui, oui, absolument. Et puis, sans aller bien, bien loin, hein, par exemple, dans les milieux aînés, les milieux d'hébergement, etc., même si on est en plein centre-ville de Québec ou de Montréal, il y a une invisibilité quasi totale de la diversité sexuelle et de genre. Donc, il y a beaucoup de ces personnes-là, surtout lorsqu'elles deviennent dépendantes ou lorsqu'elles sont dans un espace de vie restreint, elles se sentent pas en sécurité d'être elles-mêmes. Et puis, tu évoquais les personnes qui parleraient à leur famille, etc. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes LGBTQ+, où la famille n'est pas au courant, les enfants ne sont pas au courant, ou même le réseau social qui va le savoir autour d'elle est très, très
assez limité,
restreint. Ouais.
Oui, c'est vrai. Et donc, ça fait que le réseau de soutien devient plus difficile, d'où l'idée que cette formation-là vise à sensibiliser les gens qui interviennent auprès des aînés, par exemple, à pouvoir être attentifs à ces enjeux-là, j'imagine, pour leur tendre une perche afin qu'elles puissent être elles-mêmes ouvertement. Quel est le thème de cette formation?
Ben, c'est exactement ça. Hein. On commence par, déjà, on définit c'est quoi la diversité sexuelle et de genre. On l'a fait en 30 secondes aujourd'hui, on développe un petit peu plus. Ensuite, on parle de c'est quoi la réalité, c'est quoi les enjeux de ces personnes-là, notamment en contexte de proche aidance, les situations de couple, les barrières d'accès aux services de santé, services sociaux, etc. Puis on voit c'est quoi les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Donc comme on l'expliquait, il ne s'agit pas de pousser les gens à sortir du placard, il y a des personnes pour qui c'est leur mécanisme de défense, donc il faut respecter ça. Mais par contre, en tant que professionnel en particulier, il y a plein de petites choses dans son approche, dans son attitude, dans ce qu'on peut afficher, qui peuvent encourager la personne à être authentique, à se confier par rapport à ça.
Oui, parce que évidemment, avant d'ouvrir les micros, on discutait aussi du fait que l'orientation sexuelle ou de genre, ce n'est pas que la sexualité. Donc, on ne parle pas nécessairement de dire que les gens devraient vivre sexuellement de façon active dans leur vie de résidence, mm-hmm. personnes âgées ou lors qu'ils reçoivent des soins, mais simplement de leur permettre d'être eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la distinction entre justement cette idée-là de sexualité et d'identité?
Ah, ben c'est une très très bonne question. En fait, la dimension affective et sexuelle, tout être humain en a une, quoique ça inclut aussi des personnes asexuelles ou aromantiques qui en ont pas ou peu d'attirance sexuelle ou romantique. Donc ça, j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir avec la diversité sexuelle et de genre. La diversité sexuelle et de genre, c'est vraiment les personnes qui vont avoir une orientation sexuelle ou romantique minoritaire, ou une identité de genre qui va pas forcément être alignée sur leur sexe assigné
à la naissance, et puis
d'autres personnes en situation de minorité par rapport aux questions de genre, expression de genre, orientation, etc.
Oui, donc autrement dit, la façon dont on se présente, les pronoms qu'on utilise, le type de vêtements qu'on porte, toutes sortes de comportements, autrement dit, qu'on peut avoir à cacher parce qu'on ne se sentirait pas en confiance lorsqu'on est en situation minoritaire. Quels sont les principaux conseils que vous donnez justement aux intervenants par rapport à ça et qu'on pourrait donner à la population, j'imagine, en général, qui serait sensible à vouloir permettre aux personnes aînées, par exemple, d'être davantage elles-mêmes, peu importe leur orientation sexuelle, leur expression de genre?
Alors, il y a beaucoup de bonnes pratiques qu'on va explorer dans la formation de demain à 8h30, mais il y a une bonne pratique principale que je peux déjà dévoiler. C'est vraiment, surtout lorsqu'on est en situation d'intervention, de saisir toutes les opportunités que l'on a pour démontrer son ouverture à la diversité sexuelle et de genre. Souvent, les milieux vont me dire « Ah, mais nous, on est bien à l'aise par rapport à ça », mais si on ne le verbalise jamais, si ça ne se démontre pas à travers le langage qu'on utilise, les questions de routine, les schémas de représentation, par exemple, le nom de notre programme, c'est Famille Choisie. Quelque chose qui exclut beaucoup les minorités sexuelles et de genre en situation de proche aidant, c'est que le réseau est vraiment orienté vers le modèle strictement familial. Alors que les personnes LGBTQ+, elles sont souvent exclues de leur famille d'origine. Elles ont moins souvent de conjoints, conjointes ou d'enfants que la moyenne. Donc les réseaux de personnes proches aidantes autour d'elles, c'est souvent des gens issus de la famille choisie, c'est-à-dire leurs amis. Et ça, c'est un des obstacles où parfois, c'est pas qu'on veut exclure les amis dans le réseau de la santé, mais c'est juste l'attente, l'approche est forcément orientée vers la famille. Donc la personne pourrait ne pas être à l'aise de contredire ou d'affirmer sa situation individuelle.
Oui, entre autres, on s'entend que même au point de vue légal, justement, en termes de si on a besoin de demander l'autorisation à quelqu'un pour certaines interventions en cas de problème cognitif, en cas de quelqu'un qui serait inconscient, etc., c'est vraiment fait sur le modèle légal de l'époux, l'épouse, la famille, etc. Ça peut parfois créer un obstacle. Quand on parle de bonnes pratiques et de créer des occasions, il faut que ça soit ouvert. Autrement dit, c'est disons que je ne vous connais pas, justement, M. Rougerie. Je pense que c'est l'idée de ne pas présumer l'hétérosexualité d'emblée, justement, des gens et d'être capable de leur dire « Ah, avez-vous eu un conjoint, une conjointe » et d'ouvrir la question pour rendre possible de discuter, par exemple?
Exactement, c'est un très bon exemple. Éviter de genrer le ou la partenaire potentiel des personnes. Quand on ne sait pas, il n'y a pas de raison de projeter une orientation particulière sur une personne. Et puis, il y a aussi tout ce qui est identité de genre, etc. Éviter de pas forcément de présumer. C'est pas parce que quelqu'un a une expression de genre masculine qu'il faut forcément lui dire « monsieur », par exemple. Il y a des femmes qui ont une expression de genre masculine à qui on dit « madame » et on utilise le pronom « elle ». Donc, c'est ces petites choses où on évite de présupposer. On dit souvent en français « c'est compliqué, le langage est très genré », mais en fait, il y a plein de tournures de phrases. Plutôt que de demander à quelqu'un une question sur son chum ou sa blonde, ça peut être « est-ce que tu es en couple ? Est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment ? Parle-moi de tes proches. Est-ce que tu es célibataire ? C'est quoi ta situation conjugale ?» si on a envie d'être très formel. Donc, il y a plein de façons d'éviter d'orienter nos questions.
Très bien. Et en plus, j'imagine aussi que le but, de toute façon, c'est de rendre l'ouverture et la discussion plus favorable pour tous. Alors, même des personnes, justement, aînées, hétérosexuelles, cisgenres, qui correspondent à leur genre assigné à la naissance, etc., eux aussi, justement, le fait d'être plus ouverts et de moins présumer de leur vie, ça peut leur permettre de parler qu'ils ont, je sais pas, moi, ils ont peut-être des amants, des maîtresses, ils sont peut-être justement aromantiques, asexuels, mais ils ont toujours caché ça, on n'en a jamais parlé. Donc, l'idée, c'est de créer un climat où chacun peut être soi-même dans toute sa diversité.
Exactement. Et puis, quand on sensibilise à la diversité sexuelle de genre, même si on n'est pas concerné directement, je dis directement parce que tout le monde a des personnes LGBTQ+, dans son entourage, sa famille, etc., mais mais les bonnes pratiques d'inclusion, quand on s'éloigne des stéréotypes de genre, ça soulage énormément les hommes et les femmes. Ça permet aussi, on parlait tout à l'heure de la notion familiale, on a fait un sondage au Québec, il y a quand même 8% des personnes proches aidantes qui ne sont pas LGBTQ+, donc la majorité de personnes proches aidantes, elles sont 8% à accompagner un ami. Donc la question de faut inclure les amis dans les approches, c'est très vrai pour les personnes LGBTQ+, 29%, mais c'est 8% pour les personnes qui sont cisgenres et qui sont pas...
d'une minorité sexuelle.
C'est ça, exactement. Donc souvent dit, l'inclusion d'une minorité, ça bénéficie à l'ensemble de la société. C'est vrai avec la diversité sexuelle et de genre.
Est-ce que vous croyez qu'il y a des enjeux particuliers justement par rapport à l'approche aidance pour les personnes LGBTQ+, dans des régions éloignées par rapport à des grands centres?
Alors c'est sûr que quand on compare les régions par rapport aux grands centres urbains ou les grandes zones urbaines, il y a des avantages et des inconvénients. C'est sûr que dans les grandes villes, il peut y avoir des communautés qui sont établies. À Montréal, par exemple, il y a un village gay, tout le monde est au courant. Mais par exemple, ce village-là, il n'est pas forcément très inclusif vis-à-vis des femmes. C'est quand même très masculin.
Sans parler nécessairement, il n'est pas très inclusif toujours au sujet des aînés non plus, d'ailleurs.
Ouais, effectivement, on peut être à plusieurs facteurs de discrimination et donc si on est rejeté d'un bord, si on n'est pas rejeté d'un bord, on le sera de l'autre. En région, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de communautés présentes, d'éventuellement de milieux de rencontres, de services spécialisés et tout. Mais il peut aussi y avoir des avantages. Par exemple, il y a des personnes qui disent « Ah bah moi, quand j'ai fait mon coming out dans mon tout petit village sur l'archipel, je prends un cas fictif, ça a fait jaser au début, mais 6 mois après... tout le monde est au courant et c'est bon, la pilule est passée. Alors que dans une grande ville, tous les jours, on rencontre des personnes nouvelles avec le potentiel d'insécurité ou d'inconfort qu'il peut avoir. Donc les villes, c'est bien, mais c'est aussi, ça passe par l'anonymat de la personne. Donc ça double tranchant parfois. Donc voilà, ville ou région, chaque endroit a ses avantages et ses inconvénients.
Julien Rougerie pour la formation Famille Choisie de la Fondation Émergence. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.